Bonjour à tous, de nouveau ensemble sur JetFM pour notre émission « Je suis venu vous lire ». Alors en ce début d'année, on se laisse à rêver aux années passées, à celles à venir, à ce monde qui est le nôtre et à cet espace infini qu'est l'univers. Depuis les temps les plus lointains et à travers toutes les cultures, l'homme n'a cessé de conjurer son angoisse face à cet espace infini. Cet univers avec ses galaxies lointaines, ses nébuleuses bariolées, sa voie lactée, ses planètes, ses constellations. Mais cet espace est trop vaste pour que nous voyagions jusqu'aux étoiles et galaxies. Certains physiciens mettent en avant l'idée que notre univers n'est qu'un univers parmi une infinité d'autres. Le tout formant un vaste multivers. Les avancées scientifiques ont donc réduit à néant la place de l'homme dans l'univers. Loin d'être le centre du monde, sa planète n'est plus qu'un petit grain de sable perdu dans le vaste océan cosmique. dirait que l'univers invente les étoiles et semble être mystérieusement ajusté pour avoir permis l'apparition de l'homme. Si le cosmos est aussi vaste, c'est pour s'accommoder de notre présence. L'univers savait quelque part que l'homme allait venir, disait l'astrophysicien Trinh Nguyen Tan. Dans l'univers, rien n'est immobile. Tout change, tout bouge, tout évolue. Si nous ne percevons pas cette agitation frénétique, c'est que les astres sont trop distants et notre vie trop brève. Les changements ne sont perceptibles à l'œil nu que sur des échelles de temps, de millions, voire de milliards d'années. Il paraît, toutefois, que par une nuit sans lune, l'œil peut discerner 6000 étoiles dans le ciel. Ce qui s'offre à nous, avec la lumière des étoiles, ce qui s'offre à nous, capte-le, tel un monde sur ton visage. Ne le prends pas à la légère, disait Rainer Maria Rilke. Je n'étais pas le centre de l'univers, mais je l'étais quand même un peu. La Terre tournait autour du Soleil et non autour de moi. Mais rien de tout cela n'aurait existé si je n'avais pas été là pour le voir, si je n'avais pas été là tous les matins pour la regarder. Il n'existe que deux choses infinies, disait Einstein, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, disait-il, je n'ai pas de certitude absolue. Aujourd'hui, les astronomes ont découvert que la Voie lactée, cette grande arche lumineuse qui traverse le ciel de part en part et qui a mis longtemps à dévoiler ses secrets, est une galaxie, un ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles liées ensemble par la gravité et tournant toutes sans relâche autour du centre de la Voie lactée. Notre Soleil est l'une de ces étoiles. Arpenter toute la Voie lactée de notre petit coin du système solaire équivaudrait à l'exploit d'un ver de terre qui prendrait conscience de l'étendue de la France tout entière.
A friend of mine, the first time I saw her face. I was approaching at the end of the line, the first time I ever saw her smile at me that way. I was sailing in the Milky Way, losing track of memories that weren't that day, right by her side. As the stars flew by, I did collide with memory, but somehow I survived and became free.
like she knew she was walking right up to me. I was sailing in the Milky Way, losing track of memories that weren't that day. Right by her side, as the stars flew by, I did collide with memory, but somehow I survived and became free. The starry night with no moonshine, a day without a cloud.
Qui, en dépit du progrès extraordinaire de nos connaissances, nous échappe encore presque entièrement. L'univers remet ainsi l'ego humain à sa place. Malgré tout le savoir acquis, notre ignorance est considérable, car la plus grande partie de l'univers reste enveloppée d'un mystère total. Alors, pour conjurer le sort, les hommes inventèrent des mythes, des contes, des histoires sur l'origine du monde. En voici une. Au commencement, il n'y avait rien, ni haut, ni bas, ni avant, ni après, ni lumière, ni obscurité, ni être, ni non-être, ni pensée, ni projet, rien. Il n'y avait qu'un œil, aveugle, ni mobile, ni immobile dans le rien, et l'œil s'impatienta. De son impatience naquit le temps, et le temps se mit à passer éternellement. L'œil faillit s'endormir. C'est alors qu'apparurent les bulles de savon, partout, de toutes les tailles, et avec elles, la musique des sphères. L'iridescence éclaira le rien, qui devint un vide éclaboussé de lumière et de son. L'univers irisé était né, d'un coup, dans toute sa complexe et jeune beauté. Un œil, regardant des bulles de savon, avec des têtes et des queues. Très vite, Quelques milliardaires et milliardaires de secondes après l'apparition des bulles, l'œil ne sut déjà plus où donner de la tête. L'œil ne sachant pas par quoi commencer, se gavait des formes et des couleurs, ses cônes et ses bâtonnets se tordaient de rire, si bien qu'il se dédoubla lui-même par pliage de rire. Ils furent donc deux yeux rieurs, et leurs larmes de rire fertilisèrent l'espace. À deux, les yeux se mirent à voir des reliefs. Derrière les têtes, ils virent les grenouilles mâles accoucher des têtards par la bouche. Ainsi naquit l'enfance. Avec l'enfance naquirent les oiseaux-mouches et les moucharabiers. Derrière les queues, ils virent des poissons-lunes. Ainsi naquit la nuit. Avec la nuit, naquirent les étoiles de mer et les corps abandonnés. Derrière la nuit, les yeux découvrirent le cosmos. Ils y virent la première constellation, la chèvre-poisson. De la grande chèvre blanche naquit le cachemire. Du cachemire naquirent la chaleur, les fleurs, les plumes et les chenilles urticantes. L'univers à cette époque était un bouillon de culture, grouillant de choses créatures invraisemblables. Les équilibres les plus saugrenus animaient ce merveilleux cirque des origines. Tout y était vivant. Les corps et les fragments de corps, les couleurs et les fragments de couleurs, les animaux et les fragments d'animaux, la chair et les fragments de chair. Chacun enfantait son voisin, puis se dispersait pour se recombiner aussitôt ailleurs. À cette époque, la fertilité du cosmos était sans limite et la liberté de copulation maximum. C'est bien avant l'apparition de Dieu, hein, avant même la mythologie, avant même les premières manifestations du cerveau. Les mots n'étaient qu'arabesques et musique. Le nombre était décoratif. On disait 1, 2, 3, 4, beaucoup, et ça suffisait. Le bien et le mal étaient des saisons comme les autres. L'univers en était là lorsque les humains arrivèrent. Encore au début, n'arrivait-il que par morceaux indépendants. Un pied, une tête, pancréas, une oreille, un sexe, un cou, un doigt, etc., etc. Ils se glissaient dans les images comme des caméléons se servaient des autres vies comme de parures de carnaval. Et encore, au début, n'y eut-il que des ébauches de féminité. Elles coulaient dans les interstices de l'espace comme des huiles parfumées. L'homme, lui, n'était encore qu'une tête maladroite prise dans les racines de l'arbre de la connaissance. La mort n'existait pas, tout était liberté. Après, on sait ce qui s'est passé. Plus le temps passait, plus leur pesanteur rendait les humains inaptes à la vie intergalactique. Cette pesanteur devint de l'orgueil. L'orgueil leur fit inventer Dieu, à qui ils demandèrent de les créer. Dieu ne se fit pas, effectivement, dire deux fois, puis leur imposa un cerveau adapté à leur gravité. Alors, ils se réfugièrent frileusement sur la terre, comme sur un radeau de la Méduse. Mais ça, c'est après.
J'ai gardé l'autre au fond de mon lit.
Oh, encore un verre pour Monsieur l'Univers qui fait tourner le soleil et la terre. Encore, encore un coup de manivelle. Là, Monsieur l'Univers qui fait tourner le ciel.
Mais tourne, tourne les jours. Mais tourne, tourne les nuits. Grand souci, les deux premiers se sont enfuis, mais tourne, tourne les nuits, j'ai gardé l'autre au fond de ma vie.
Ouais. Encore un verre pour Monsieur l'Univers qui fait tourner le soleil et la terre. Encore un coup de ma vie. l'univers, là, monsieur l'univers qui fait tomber le ciel.
Regarder, essayer de comprendre, mais aussi s'émerveiller, dire et raconter la beauté du monde, sa fragilité, scruter le lointain, sonder l'énigme pour inventer l'univers, tel est le jeu du poète, une invitation au rêve. Le premier matin du monde, sûrement fut un rire jaune, traversé de brumes sulfureuses et bleues comme des morsures, et le premier soir, s'il a existé, a dû être vert, oui, vert pâle, comme la peur au ventre. Et pourtant, c'était magnifique, et c'est toujours géant. Regarde, là, autour d'une étoile en feu. Au début, au commencement, il n'y avait rien. Ce devait être le néant. Comment savoir ? Tu es si petit, et parce que tu respires, simplement parce que tu respires et que tu ris, tu voudrais mesurer des choses, ou tu comptes pour du beurre, autour d'une étoile en feu. Au commencement, au tout début, il n'y avait pas ces trajectoires infinies, ce jeu de boules de géants jetées dans l'univers, ces roulements sourds, ces traînées de lumière lourdes, lourdes, cette glissade vertigineuse sur le sable du ciel autour d'une étoile en feu. Partie du néant, au tout début, une vedette s'est mise à briller, éclaboussant jour après jour la scène, supernova parmi les stars, au firmament de sa gloire, autour d'une étoile en feu. Seulement, voilà, à force de tirer sur le courant, eh ben ça a sauté. Le souffle de la mort se propage au plus court, au plus fragile des mailles du ciel, déchirant tout sur son passage, poussant devant elle la poussière et la cendre par nuages entiers, comme des bancs de neige affolés qui s'accumulent dans les gouffres du monde, en longs filaments flottants, comme de gigantesques rubans d'œufs de poisson. Ils dérivent, s'étiolent, s'effilochent, et voilà qu'il croise le chemin secret de puissants courants magnétiques, l'attraction sournoise d'énormes corps tapis dans l'obscurité, ou la voguante lumière. Alors, au cœur de ces essaims de poussière, les ions, les atomes se concentrent, goutte après goutte naissent les molécules. Une pluie de cailloux et de météorites, des grêlons de 100 km de rayon, une belle pierre, une belle paillaille, des blocs, des parpaings, des rochers vont tourner dans l'espace, toujours autour de l'étoile en feu. C'est une danse autour du ventre, un grand cerceau de gravier rose, gigantesque, jongleur. Un pas dans le cercle, il implose, un doigt de géant dehors, ils font boule et forment une, deux, trois, bientôt 8 planètes, un mélange devant toi ébloui, si petit et si seul, autour de l'étoile en feu.
The night.
puissiez vous balader dans notre système solaire et visiter chacune de nos 8 planètes. Randonner par exemple le long des plaines rouges de Mars, balayées par le vent, ou visiter l'une des 64 lunes de Jupiter afin d'y photographier ses tempêtes tourbillonnantes, ou découvrir Uranus, entouré de ses 13 anneaux et de ses lacs de diamants, ou encore plonger au plus profond de l'atmosphère exotique de Jupiter. Toutefois, on vous déconseille Pluton, plutôt triste Pluton. Alors, ce voyage interplanétaire vous tente? Ok? Eh bien, c'est parti. Tout d'abord, direction la Lune, idéale pour une brève escapade. En termes de distance, se rendre sur la Lune équivaut à faire 10 fois le tour du monde. Pour vous arracher à la gravité terrestre, il vous faudra atteindre la vitesse de 40 265 km à l'heure. Et un petit conseil, vous ferez des économies en optant pour un vol lancé près de l'équateur. À votre arrivée, vous éprouverez un délicieux mélange de déjà-vu et d'étrangeté. Vous découvrirez des vastes plaines sombres, des immenses cratères et aussi des chaînes de montagnes. Surtout, n'oubliez pas de vous retourner pour admirer votre planète natale. Cette fragile bille bleue suspendue dans les ténèbres. Très, très impressionnant. En vous installant, ne manquez pas de prendre connaissance du protocole touristique. L'eau étant rare, en gaspiller même en petite quantité est considéré comme un outrage impardonnable. Vous vous déplacerez en rover et progresserez à l'allure tranquille d'une voiturette de golf, c'est-à-dire 20 km à l'heure. Donc pour cela, choisissez à l'avance et sur catalogue les excursions à prévoir. Les mordus d'histoire seront ravis de compléter les 6 sites d'alunissage des missions Apollo, en particulier celui où Apollo 11 s'est posé sur la mer de la Tranquillité. Pensez surtout à admirer les premières empreintes de l'homme sur la Lune, parfaitement présentées, que l'on doit à Neil Armstrong en 69. Après avoir visité les sites d'alunissage d'Apollo 12 et d'Apollo 14, allez donc jeter un coup d'œil à la mystérieuse anomalie Rainer Gamma. Cette formation géologique de 70 km de large est une tache d'un blanc très vif qui évoque un tétard ou encore de la crème versée dans du café. Du fait de l'absence d'atmosphère, on entend pas le moindre son sur la Lune, ce qui intensifie l'expérience du silence souhaité par les adeptes de la méditation. Le cratère Tycho est le point le plus reconnaissable de la Lune, ainsi que son attraction touristique la plus visitée. Tycho s'est formé lors de l'impact d'un astéroïde survenu il y a environ 109 millions d'années, et si vous aviez été sur Terre à l'époque des dinosaures, vous auriez vu ce jour-là un flash énorme dans le ciel. N'oubliez pas aussi de visiter les Alpes lunaires. L'un des plus hauts sommets des Alpes lunaires s'appelle le Mont Blanc. Il culmine à 3800 mètres, comme le nôtre. Ses pentes ne sont pas très raides, cependant comptez une bonne journée terrestre pour en atteindre le sommet. Le soleil brillant dans le ciel 14 jours d'affilée dans cette partie lunaire, vous devriez être en mesure de parvenir à destination bien avant le crépuscule. La face cachée de la Lune est l'endroit idéal aussi pour détecter des objets célestes invisibles à l'œil nu. Après avoir profité des sites lunaires, vous aurez le choix entre rentrer sur Terre ou poursuivre votre périple en direction d'une autre planète. Alors, on continue le voyage ?
Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su fin mola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna.
Si vous rêvez de vacances ensoleillées, rien ne vaut Mercure. Idéal pour les adorateurs du soleil et la vie souterraine. Toutefois, ce sera un séjour sur une planète sans lune, sur laquelle règne une chaleur étouffante. Mercure attire surtout les individus audacieux qui ne s'effraient pas du risque mortel de s'exposer aux rayons du soleil. On relève des températures de 426 degrés pour les plus élevées à 160 degrés pour les plus basses. Alors, si vous souhaitez fuir les étouffantes chaleurs estivales, Mars est la destination idéale. Quelle que soit l'époque à laquelle vous visitez Mars, Mars est un oasis pour les romantiques comme pour les aventuriers. Ces vastes déserts glacés sont exotiques et ont quelque chose d'étrangement familier. On se croirait sur une version réduite de la Terre dans quelques univers parallèles apocalyptiques, où les océans se sont asséchés et où l'atmosphère s'est presque totalement dissipée. Il ne reste plus que de la poussière de roche et vous oublierez très vite la gravité de l'air pesant de la Terre. Sur Mars, vous vous sentirez léger, sans pour autant vous envoler. La température atteint parfois une vingtaine de degrés près de l'équateur, même si elle est la plupart du temps stabilisée autour de moins 60 degrés. C'est la planète idéale pour une escapade glaciale. Toutefois, quelquefois à la saison, la poussière est omniprésente sur Mars et les fréquentes tempêtes de poussière recouvrent parfois toute la planète au point de masquer le soleil. Il n'y a pas d'eau à l'état liquide sur Mars. Quelques sources spontanées et éphémères peuvent apparaître, principalement au cours des mois d'été. Si vous dénichez de l'eau martienne, ne la buvez pas avant de l'avoir purifiée. Elle est salée, ce qui l'empêche parfois de geler, et ses composants chimiques sont extrêmement toxiques. Plutôt éviter. Comme sur la Lune, vous vous déplacerez en rover tout-terrain. Alors, à voir en priorité, le mont Olympe, c'est le plus haut volcan du système solaire. Effectuez l'ascension du mont Olympe et le temps fort de tous ces jours sur Mars. Prévoyez au moins un mois pour cette excursion. Et un conseil, attaquez le volcan par le sud, où il est le moins pentu. Ensuite, faites un tour vers la plaine Hellas. En hiver, elle se couvre d'une brume givrée et prend une teinte bleutée et il paraît que c'est magnifique. Mais le moment fort de votre séjour sur Mars sera la vallée Mariner, non loin de l'équateur martien. Il s'agit du plus grand canyon du système solaire. Ce gigantesque fossé est large de 40 km et profond de 11 km, des dimensions 4 fois plus grandes que le canyon américain. Alors, ces 3000 km de longueur s'étendent sur un quart du globe martien. Pour terminer votre périple, ne manquez pas de passer par les lieux où reposent les robots explorateurs que la NASA a envoyés sur Mars. Bon, il est vrai qu'ils sont un peu poussiéreux à présent. Et puis, autour de Mars, vous observerez aussi deux lunes, certes modestes comparées à la nôtre, Phobos et Deimos, qui peuvent aussi faire l'objet d'une visite pour une petite excursion. À vous de voir.
Thank you.
après cette aventure interplanétaire, et si toutefois la nostalgie de la planète bleue se fait sentir, un besoin vital de revenir sur Terre, c'est pas compliqué. Je vais vous faire un dessin.
Si vous voulez savoir où je suis, comment me trouver, où j'habite, c'est pas compliqué, j'ai qu'à vous faire un dessin, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous entrez dans la galaxie, vous prenez tout droit entre Vénus et Mars. Vous évitez Saturne, vous contournez Triton, vous laissez la Lune à votre droite, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous verrez tourner dans les grands terrains vagues d'espace, des Spoutniks, des machins, des trucs satellisés, des orbites abandonnées, la fourrière d'en haut, la ferraille du ciel, c'est déjà la banlieue. La banlieue de la planète où je passe le temps. Vous continuez tout droit. Là, vous verrez tourner une boule pleine de plaies, pleine de bosses. C'est la Terre, j'y habite, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous vous laissez glisser le long du Groenland qui fait froid dans le dos. Attention, ça dérape. Vous prenez à droite par la mer du Nord, à gauche vers la Manche. Et là, là, vous trouverez un machin qui ressemble à la tête d'un bonhomme. En forme d'hexagone avec un très grand nez. Un nez qui n'en finit plus. Un nez qui respire la mer. Un nez en forme de Finistère. C'est la France. J'y habite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous continuez tout droit jusqu'à un fleuve blanc qui s'appelle la Loire, les yeux couleur de sable. Vous la suivez à gauche, puis à droite, puis à droite. Et quand vous êtes là, quand vous êtes là, quand vous êtes là, demandez la maison, tout le monde nous connaît. Vous ne pouvez pas vous tromper, là, et là, et là, et là. Elle a des yeux comme ceci. Et des cheveux comme cela. Il y a sa bouche qui est là. Et son sourire juste au coin. Elle est toujours là où je suis. Je suis toujours là où elle est. Elle est la lampe, elle est l'horloge, mon feu de braise et mon lieu dit. Elle est ma maison, mon logis, et de toute façon, quand vous aurez vu son sourire, vous ne pourrez pas vous tromper, parce que c'est là.
En contemplant l'immense voûte céleste, qui semble se perdre à l'infini, on ne peut s'empêcher de se demander, mais... sommes-nous seuls dans l'univers? S'il n'y a pas quelque part ailleurs dans le cosmos des êtres capables de se poser des questions sur le monde et de s'émerveiller du spectacle de la nuit étoilée? Si E.T. existe, pourrions-nous communiquer avec lui? Pour les astronomes d'aujourd'hui, la possibilité d'entrer en contact avec des civilisations extraterrestres ne relève plus du tout de la science-fiction. De sérieux efforts sont déployés à cette fin. Les terriens ont lancé 2 sondes vers les étoiles, portant à bord des messages sans destination précise, dans l'espoir qu'elles seront un jour récupérées par des extraterrestres, telles des bouteilles lancées dans le vaste océan cosmique. Des bouteilles dans lesquelles se trouvent des sons et des images de la Terre. Par exemple, le mot « bonjour » en 55 langues. Le dessin d'un atome d'hydrogène. Un schéma montrant la place de la Terre dans le système solaire. La représentation d'une femme et d'un homme, le bras levé en signe de salut. Un disque aussi, contenant un concerto de Bach, un morceau de jazz de Louis Armstrong. Et puis le bruit d'un baiser, celui du vent, le chant des baleines et des rires d'enfants. Au lieu de sondes spatiales qui se déplacent à des vitesses d'une lenteur exaspérante, il est beaucoup moins onéreux et beaucoup plus rapide d'envoyer des messages radio qui se déplacent à la grande vitesse dans le cosmos, c'est-à-dire celle de la lumière. Nous pouvons donc aussi écouter au lieu d'envoyer des bouteilles à la mer. L'espace regorge peut-être de messages envoyés par d'autres civilisations. Les terriens se sont donc mis à écouter le ciel. Des rangées de radiotélescopes sont pointées vers les milliers d'étoiles les plus proches, semblables au Soleil, et écoutent simultanément sur des millions, voire des milliards de fréquences. Ce sont bien sûr des ordinateurs qui sont chargés d'écouter. Les humains n'interviennent que quand parmi les signaux qui arrivent, il en est qui sortent de l'ordinaire. Mais pour l'instant, il n'y a eu que de fausses alertes. Aucun signal suspect ne s'est révélé provenir d'une intelligence extraterrestre. L'espace demeure désespérément silencieux. Malgré ce silence de plomb, la quête continue. Le jeu en vaut la peine. Le jour où, enfin, le silence sera rompu, marquera un grand tournant dans l'histoire de l'humanité. Nous saurons alors que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers et qu'il y a quelque part, ailleurs, d'autres, peut-être, aussi, qui s'émerveillent devant la splendeur et l'organisation du monde.
Thank you.
monde innombrable, nous rêvons à eux. Qui nous dit que leurs habitants inconnus ne songent pas à nous, eux aussi, et que l'espace n'est pas traversé par des vols de pensée comme il l'est par les effluves de la gravitation universelle et de la lumière? Espérons-le.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7
Commencing countdown, engines on.
3 2
Check ignition 1. And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world.
Avec ce ciel grand, plein de retenue, splendide, nous terminons notre émission. Je suis venue vous lire. Nous reviendrons jeudi prochain. À la technique et à la programmation musicale, Michel Yordanov. À la lecture et à la réalisation, Corinne Tardieu. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur www.jet.asso.fr. Bonne écoute sur JetFM.